En premier lieu, mes pères, mes frères et sœurs, je voudrais exprimer ma gratitude pour la présence d'un de nos frères chrétiens, bien sûr, de l'Église arménienne, le père Archimandrite, qui participe à notre rencontre, qui a assisté à la Sainte Liturgie. C'est une grande joie parce que nous ne devons jamais oublier que nous devons encore remplir le commandement de Dieu de retrouver l'unité entre des chrétiens et que votre présence, mon Père, soit un signe de cette volonté parmi les fidèles arméniennes et nos fidèles de travailler, de prier et même de souffrir pour retrouver l'unité. Quand je parle des souffrances, je me sens un peu embêté parce que je suis venu pour accueillir Monseigneur Emmanuel et c'est ici que j'ai appris que le malheureux n'est pas venu. Alors, je dois le remplacer. Et demain, nous avons réunion de l'AOF. J'ai déjà donc un sujet à traiter. Hein? Quand on promet de venir, il faut tenir sa parole. Mais moi, je suis ici, donc à moi de parler de l'AOF. Je dois vous dire que je ne connais pas très bien l'histoire, parce que je suis au courant, mais j'étais encore prêtre de paroisse aux Pays-Bas en ce temps-là, quand on a fondé l'AOF, et je sais par la littérature, bien sûr, et les publications francophones, entre parenthèses, est très importante pour l'Europe occidentale, parce que nous avons été informés toujours de la vie orthodoxe en France, donc de ce centre, par les publications de la Fraternité. Donc, ce n'est pas uniquement pour les pays francophones, mais c'est aussi très important pour les pays nordiques et pour les orthodoxes en Allemagne et aussi dans les pays scandinaves. Ce que nous faisons ici à Paris, ce que nous publions ici à Paris, car je ne suis pas français, hein, je suis flamand, mais quand même la vérité doit être dite. Actuellement, la présence orthodoxe en France est très importante pour l'avenir de l'orthodoxie en Europe occidentale. Et je dois avouer cela malgré le fait que je suis flamand. Alors, en ce temps-là, donc, nous avons appris l'existence d'un comité des évêques orthodoxes canoniques. Et à un certain moment, comme vous savez, à l'initiative du patriarcat œcuménique, c'était encore le temps de patriarche Dimitrios de bienheureuse mémoire, il y avait en Suisse des réunions préconciliaires au début des années 90. Et là-bas, on a vraiment traité le problème du diaspora, enfin notre problème, disons. Et si j'ai bien compris ce qui s'est passé, on a donc pris la décision, un projet venant du patriarcat œcuménique, d'organiser des assemblées des évêques orthodoxes dans les régions. On dit ça en français? Régions. Donc la France est une région, et c'est pourquoi les évêques orthodoxes se réunissent en assemblée. Une autre région, c'est les pays du Benelux, les pays scandinaves, l'Italie, je pense, c'est la Suisse, je ne suis pas sûr, l'Angleterre, l'Allemagne. Mais en fait, encore une fois, l'exemple et l'importance de la France, on a demandé à ce moment-là aux évêques orthodoxes en France d'être un exemple et de fonder déjà cette assemblée des évêques orthodoxes canoniques. Et ce qu'on a fait en ce temps-là, et depuis donc le début des années 90, nous avons en France cette assemblée. Quel est le sens de cette assemblée? Eh bien, il faut discerner deux choses. Ils ont été fondés pour trouver une solution, une réponse à la question du diaspora. Parce que c'est en fondant ces assemblées que les églises, nos églises mères, apparemment, en ce temps-là tous, ont voulu donner une réponse à la question comment organiser l'orthodoxie dans ce pays qui n'appartient pas à une église autocéphale canonique. Ce qui est très triste à la fin de l'histoire, que chaque église représentée par quand même un archevêque ou des métropolites importants, ils ont signé les décisions de Chambéry, Mais en vérité, presque aucune église n'a accepté après les conséquences. Parce qu'on avait aussi décidé là-bas, et donc on a signé, écoute, les évêques existants maintenant, ils vont se réunir, et si un patriarcat veut encore sacrer quelqu'un, donc fonder un diocèse, soit en France, soit en Belgique, alors, avant de sacrer quelqu'un, ils vont donc négocier, ils vont parler avec les évêques sur place pour voir si c'est vraiment nécessaire et pour pas rompre cette symphonie de l'unité qui doit être quand même l'ensemble des orthodoxes, même ici en France. Quand nous parlons de l'AOF et de notre histoire, il ne faut jamais être impoli, mais non plus, il ne faut jamais ne pas dire la vérité. Et la vérité peut nous libérer, et la vérité n'est pas toujours très agréable. Après cette décision de fonder l'AOF, et donc de ne plus créer des évêchés, qu'est-ce qu'on a vu? Les églises mères qui ont eu déjà des sièges épiscopaux, par exemple en France ou en Europe occidentale, vides, ils ont rempli directement ces sièges. Et les autres églises mères ont quand même créé des éparchies, mais sans consulter l'AOF. Donc, il y a, dès le début, il faut dire la vérité, une atmosphère qui n'est pas très agréable. Et nous en souffrons maintenant. Pour la France, bien sûr, le seul pays où nous avons vraiment déjà cette assemblée des évêques orthodoxes, et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire orthodoxe d'Europe occidentale, pour la France, le seul diocèse qui a été érigé, c'était la métropole roumaine. Mais il faut dire la vérité, au moment de la création de la métropole roumaine, sa béatitude, le patriarche Théoctiste, a bien informé l'AOF. Et ce n'est pas pour rien que le sacre de Mgr Joseph a eu lieu dans la métropole grecque en présence des évêques de l'AOF. À ce moment-là, c'était l'exemple d'une vie communale, commune, pour le bien-être de l'orthodoxie locale. Excusez-moi pour mon français, mais apparemment vous me comprenez, donc ça c'est le plus important. Les autres églises mères n'ont plus sacré des évêques pour la France. Chaque église mère qui a encore envoyé des évêques, ils les ont envoyés en Allemagne, mais pas en France. Peut-être c'est à cause de l'existence de l'AOF, je ne le sais pas, je l'espère. Hein? Entre temps, oui, excusez-moi, il y a toujours des exceptions, bien sûr, parce qu'on est orthodoxe. Mais, par exemple, il y a un métropolite, un archevêque de l'église des Géorgies qui se trouve en Allemagne. Il y avait, mais il était déjà là, je pense, qu'en Berlin aussi, un archevêque métropolite bulgare. Leur présence est nécessaire pour des raisons pastorales, ok, c'est bien, aucun problème, mais... comment est-ce que nous devons coopérer, et vraiment coopérer, pour le bien-être de l'Église? Moi, je suis entré dans l'AOF comme évêque auxiliaire de Mgr Serge de Bienheureuse Mémoire, parce que, comme vous savez peut-être, comme archimandrite, j'étais doyen pour nos paroisses en Belgique, Pays-Bas et l'Allemagne. Et à un certain moment, on m'a donné la paroisse de Lille. Donc, quand je suis devenu évêque auxiliaire, par le fait que dans le doyenné dont j'étais responsable se trouvait la paroisse de Lille, je suis devenu membre de l'AOF. Et je me rappelle, en ce temps-là, chaque mois, je suis venu de Maastricht pour assister à la réunion de l'AOF, une tradition qui existe encore. Maintenant, je ne dois plus venir de Maastricht, mais d'aller de la rue Daru à rue Georges Biget. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Imaginez-vous, vous êtes un pauvre campagnard flamand et vous arrivez dans une telle réunion très importante. Et alors, entre nous, les évêques, il y a l'atmosphère fraternelle. Et si fraternelle que c'est de temps en temps très difficile de toucher des vrais problèmes. Nous sommes si sensibles pour l'esprit d'amitié entre nous qu'on préfère, oh, vous savez, nos laïcs, les prêtres, on est un peu entre nous. C'est un danger. C'est un danger parce que je peux faire une comparaison. En Allemagne, vous n'avez pas l'IOF, mais vous avez donc une sorte, comment est-ce nom en Allemagne?
Fédération.
Une?
C'est une fédération.
Oui, mais là-bas, les évêques ne sont, ils ont leur réunion, mais entourés des laïcs. Et donc, l'influence des laïcs en Allemagne est plus grande, très grande. Ce sont eux qui préparent les réunions. Bien sûr, les évêques, ils ont la dernière parole. Mais il y a donc une, même pendant les réunions.
Hein?
Non. Bon, ils ont des commissions, des comités, et chaque évêque est accompagné de quelques laïcs, et de temps en temps, l'évêque ne peut pas venir, il envoie ce laïc qui représente son église. Et donc, s'y assister quelquefois, parce que nous avons des paroisses en Allemagne, et je peux vous assurer, là-bas, les réunions sont vivantes. Tandis qu'ici en France, l'IOF, c'est plutôt entre nous. Et c'est, encore une fois, c'est très agréable, mais je pense qu'il faut dire la vérité. Il y a un danger qu'on dort. Ah, c'est exagéré, j'exagère un peu, mais... c'est une opinion personnelle, hein, je vous en prie, mais je pense que pour l'avenir, il faut chercher une possibilité que vous avez une plus grande influence pour ce qui concerne les réunions de l'IOF.
Quelles sont les paroles de AOF? C'est un signe, j'entends tout le temps, le signe AOF.
Assemblée des évêques orthodoxes en France. A et O F.
Merci,
excusez-moi. Ah, vous dites A E O F. Comprends au fond. Ça, je ne crois pas. Notre réunion, notre assemblée des évêques, a perdu en 24 heures son président, Monseigneur Jérémy, parce qu'il a été nommé en Suisse, et le lendemain, l'archevêque Serge par la mort. Et donc, quand même, Monseigneur Serge était trésorier, mais aussi très proche de Monseigneur Jérémy. Et je peux vous dire que ça a vraiment handicapé l'Assemblée. Monseigneur Emmanuel est arrivé, moi, je suis arrivé comme archevêque, et nous avons eu un temps, disons, difficile pour retrouver notre style, parce que chaque homme a son caractère et sa façon de travailler. Et dans une réunion, dans un collège, soit dans une paroisse, le conseil, ou dans un diocèse, le conseil du diocésain, donc, ou l'IOF, le président est très important. Et donc, Monseigneur Emmanuel est venu de Bruxelles, et donc il a eu besoin d'un temps pour s'introduire dans les problématiques. Et maintenant, je pense que nous pouvons vraiment travailler ce que nous faisons. Bientôt, on va publier donc une nouvelle traduction de liturgie. Il y a des projets pour déminer, donc des offices pour les dessins. Pour ce qui concerne la vie de vos paroisses, on a commencé à parler avant d'ouvrir une paroisse, de parler entre nous. Est-ce qu'il faut vraiment ouvrir là-bas une paroisse? Il y a déjà une paroisse dans cette ville ou dans cette région. Donc, mais ça doit encore... être développé en vérité. Et, oui, quels sont les problèmes d'AF? Une manque d'argent. Je suis le trésorier, je vous assure, bientôt vous allez recevoir des lettres de notre part, parce que certaines institutions orthodoxes demandent un peu sous à nous, on veut payer un peu, on veut aider la publication de nos liturgies. Écoute, moi je suis le trésorier et la caisse est presque vide, donc nous avons un problème matériel comme beaucoup d'organisations. Mais ce qui est plus important dans le sens spirituel, c'est que nous nous rencontrons, nous, les évêques, et par nous, vous. Et peut-être c'est un peu drôle que moi je dis cela parce que ce matin, je n'étais pas présent à la cathédrale grecque pour participer à la liturgie. Mais il faut bien comprendre, dans chaque église a sa tradition, et dans notre tradition plutôt russe, la présence d'un archevêque dans son cathédrale pour célébrer l'immense orthodoxie est très importante. Dans ce cas, j'ai déjà proposé à Mgr Emmanuel et mes confrères de se réunir, par exemple, l'immense des pères du premier concile de Nicée, pour une concélébration et pour un témoignage de la vérité de la foi orthodoxe. Je n'ai rien préparé, donc si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez les poser avant que je donne la parole à Père Placide pour un sujet plus spirituel que l'AIOF. Qui est Madame Blanc.
Excusez-moi, mais quels évêques est-ce que ça réunit l'association des évêques? Nommément, lesquels?
Donc, c'est Mgr Emmanuel qui est le président, c'est Mgr Gabriel du patriarcat d'Antioche, c'est Mgr Innocenti du patriarcat de Moscou, Mgr Luc du patriarcat serbe, et c'est Mgr Joseph pour l'église romaine, avec son auxiliaire Mgr Marc, et c'est moi-même pour la rue d'Avu, pour l'archevêché de la rue d'Avu, et en fait aussi Mgr Michel, mon auxiliaire, mais à cause de sa santé, il n'assiste plus aux réunions. Non, il est en Italie. Il avait une question là-bas.
Vous avez dit que vous avez publié des ménés.
Oui. Nous avons devant nous l'éternité, mon ami, donc... Non, on parle, excusez-moi. Non, je voudrais dire, on parle de... comment le dire en français? L'intégration de l'orthodoxie dans ce monde occidental. Donc, il y avait, il ne faut jamais oublier cela, nous ne sommes pas en Afrique ou en Asie. On se trouve ici en Occident. Cela veut dire qu'il y a une chrétienté locale très ancienne, même apostolique, c'est-à-dire l'Église catholique. Alors, il y a des saints qui ont été canonisés, qui ont été vénérés par le peuple avant le schisme. Alors, ce sont aussi nos saints. Comment les célébrer? Et ça, c'est un processus qui est très important, mais qui doit être guidé et accompagné par l'épiscopat. Ce que moi, je regrette beaucoup, chaque fois que je reçois un bulletin de n'importe quelle organisation orthodoxe, on publie des tropères et des condamnes et des offices partout. Et moi, je pose toujours la question, quel évêque a béni la publication d'un tel office? Par exemple, vous avez Saint-Benoît, le père des moines en Occident. Père Placide sera d'accord, c'est un grand saint. Alors, nous pouvons le célébrer. Mais ça doit, il faut avoir un office accepté par l'Église, c'est-à-dire par l'épiscopat. Et qui doit écrire cela? Écoute, apparemment, dans l'orthodoxie, tout le monde est théologien et je ne sais pas quoi, tout le monde le sait très bien, excepté l'épiscopat. Alors, tout le monde publie, tout le monde parle, mais il faut avoir une expérience. Il y a certaines choses que moi, je ne peux pas faire et je n'ose pas faire. Alors, mais s'il y a des gens parmi nous, qui sont capables de d'écrire, par exemple, des offices, ils vont le faire. Mais pour cela, ils ont besoin de la bénédiction de l'Église par l'épiscopat. Et c'est là que, pas Mgr X, Mgr Y, mais probablement, et c'est mieux, qu'en ce moment-là, que c'est l'AOF qui donne sa bénédiction par son président, c'est-à-dire Mgr Emmanuel. Ah, une année, ça, ça, une édition des offices. Oui, on commence, oui.
Et une question, pourquoi le président de l'Assemblée des Églises orthodoxes de France est toujours grec?
Parce qu'il est né là-bas. Mais, non, excusez-moi, parce que, mais je veux répondre. Et maintenant, je suis content que vous posiez cette question, mon ami, parce qu'il y a aussi une chose. De plus en plus, vous savez un peu mon histoire, je suis arrivé ici en France il y a 3 ans, j'ai porté ma croix comme archevêque, et de temps en temps, je pense qu'il faut maintenant dire vraiment le problème et donner la réponse. On n'arrivera jamais et jamais à l'organisation d'une église locale si nous n'acceptons pas la place, le service, le diaconia de la grande église du Christ, et c'est-à-dire l'église de Constantinople. Et je dis, la grande église du Christ, elle est grande parce qu'elle est petite dans ce monde. Elle n'a pas d'influence politique, elle n'est pas riche, mais elle a, par la tradition, cette diaconia, ce service, cette vocation de s'occuper de nous tous, et surtout de nous en Occident, qui nous trouvons sur le territoire du patriarcat de Rome. Mais ce patriarcat n'appartient plus à la grande communion orthodoxe. Et c'est pourquoi c'est la nouvelle Rome qui doit s'occuper de nous, les restes sacrés, j'espère, qui confessent la vérité de la foi. Et ça, mon ami, on peut encore organiser des discussions et des réunions de la fraternité, des week-ends complètes, discuter, parler dans n'importe quelle langue. Mais de plus en plus, ce sont la nécessité que nous devons prier que nos patriarcats pratiquent ce que nous avons bien en théorie. Pas un papisme. Qu'on se tait de cela quand on parle de Constantinople, parce qu'il faut apprendre l'histoire. Mais ce service apostolique de servir l'unité dans une diversité. Et Constantinople, et en particulier sa sainteté, le patriarche, est bien au courant de cela. Et ça explique que déjà que normalement, c'est le métropolite exarche du patriarcat œcuménique qui préside l'IOF. Et moi, je suis membre, et je vous dis une chose, quelle chance, mon ami, que nous ne devons pas élire chaque 3 ans un autre, parce que je connais nos caractères. Oui, mais je ne suis pas né en Grèce.
Remercier Monseigneur Gabriel. Évidemment, l'Assemblée des évêques orthodoxes en France, je suis curieux de savoir que beaucoup de gens ne connaissaient pas qui il est fait. Mais voilà, on le sait maintenant aujourd'hui. Et puis, si Monseigneur n'a pas voulu nous dire peut-être ce qu'il représente pour nous, laïcs, c'est important qu'on sait maintenant qu'en France, l'Église orthodoxe est représentée. Ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les Grecs, c'est l'Assemblée des évêques orthodoxes. Et l'État français vient de reconnaître ceci. Nous sommes parmi maintenant les communautés religieuses qui sont officiellement représentées et qualifiées. Point de vue, pour les fêtes, par exemple, les jours de fête des communautés, c'est l'Assemblée qui passe, ce n'est plus tel archevêque ou tel métropolite. Donc c'est important. Il y a eu 2 journées des orthodoxies en France, déjà, qui ont eu les 3 ans, et qui sont intéressantes. Peu importe ce que ça va donner, comme a dit Monseigneur, mais dans la vie de tous les jours, c'est quand même des choses de réalisation. Ceux qui sont maintenant, tout ce qui doit se faire au point de vue orthodoxe, et là Monseigneur l'a bien dit, doit passer par l'AOF. Les émissions sur l'orthodoxie aujourd'hui à Notre-Dame, ils ont la bénédiction de l'Assemblée. Notre fraternité, elle ne serait pas là si nous n'avions pas la bénédiction de l'Assemblée des évêques, pas de Monseigneur X ou Y ou Z. Voilà, c'est ça qui est très important. Et puis il y a des communiqués, ceux qui sont sur Internet, ceux qui font orthodoxie en France, orthodoxie à Paris, orthodoxie, peuvent chercher, ils vont voir que tous les quelques temps, l'Assemblée des évêques fait un communiqué.
Par exemple, lorsqu'il y a eu le décès du Saint-Père, du pape Jean-Paul II, sous l'élection du nouvel évêque, lorsqu'il y a eu actuellement l'Assemblée œcuménique, le Conseil œcuménique, tout ça, il y a des communiqués que l'Assemblée des évêques, il y a une commission œcuménique, il y a une commission liturgique, il y a une commission financière, malheureusement, de dissidaires, voilà. Donc il faut dire que pour nous, nous sentons quand même qu'il y a déjà un organisme. Il y a un organisme, indépendamment évidemment des problèmes après les juridictions. Et c'est ça que nous avons remercié très vivement Mgr Gabriel d'être venu quand même nous expliquer par A plus B ce qui se passe. Les difficultés, évidemment, il y en aura toujours, mais surtout les perspectives à venir. Bon, qu'est-ce qu'on pense?
Avant de donner la parole au Père Placide, je voudrais m'excuser et demander pardon si j'étais trop dur, ce n'était pas mon intention. Mais pour cette occasion, le dimanche de l'orthodoxie, depuis du Jean Carême, je vous souhaite de tout mon cœur de retrouver cette joie que vous avez, que nous avons trouvée dans notre cœur le moment, le jour que nous avons trouvé l'orthodoxie. Et cette joie, mes frères et sœurs, doit être présent dans notre cœur. Et il ne faut pas regarder trop toutes les structures faibles de notre Église. Mais le cœur, c'est la Sainte Liturgie, c'est l'Eucharistie. Comme ce matin, soit à la cathédrale grecque, soit dans votre paroisse, roumaine ou non, mais orthodoxe, là, c'est le cœur de l'Église. Là, il y a la rencontre entre Dieu et l'homme, dans le mystère de l'Eucharistie. Et ça, c'est le plus important. Donc, n'oublions jamais notre joie quand nous avons retrouvé cette foi véritable. C'est ça ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et n'oubliez pas de prier pour moi.